En 2022, les rendez-vous de la francophonie célèbrent les traditions.
Que ce soit les traditions familiales, orales ou culinaires, ça fait partie de nos vies.
Nive et moi, Elisapi, sommes les porte-parole des RBF 2022.
Et on part à la découverte des traditions. Salut Elisapi, comment ça va?
Ça va très bien, Yves, et toi-même?
Ben ça va bien, écoute, content de te parler encore une fois. On va parler encore de tradition. Hein. C'est le thème cette année. On va surtout parler au début de tradition familiale. Et moi, je voulais te demander, du côté de ta famille, quelle tradition tu as suivi durant ton enfance, mettons?
Oh my my, beaucoup, beaucoup de traditions, je dirais, qui sont encore là d'ailleurs. Comme je t'ai parlé un peu de notion de nom, notion de nom. On parle tout souvent de réincarnation. Nos noms, moi j'ai quatre noms. Mes quatre noms m'ont permis de faire vivre ces quatre personnes-là à qui je suis nommée, Elisa Pichoponor Akomalek Lissier. Qui fait que j'étais liée avec beaucoup de gens dans la communauté et la tradition veut, c'est on essaie de faire vivre ces gens-là en nous, même s'ils sont décédés, beaucoup qui sont décédés, les gens à qui je suis nommée. Et quand je suis née, quand j'étais toute petite, j'étais déjà une grand-maman, j'étais déjà une tante parce que j'étais nommée par ces gens-là qui sont décédés. Alors, la tradition, c'est que jamais on dit Elisapi ou Akomalek, on dit ma sœur, ma cousine, ma grand-mère ou... Alors, pour moi, ça fait partie de mode de vie. Alors, je dirais c'est une partie très, très importante de mes traditions. Il y a des traditions similaires que toi, tu as suivies dans ton enfance. Tu sais, je sais qu'on est deux mondes complètement différents, mais toi, c'était comment?
Mais en même temps, très proche, parce que nous, surtout au niveau des noms, moi, par exemple, j'ai mon prénom Yves, mais j'ai aussi un nom en hébreu. Qui est Shalom, et je suis nommé après un grand-oncle à ma mère. Pareil, tu vois, mon fils, il porte le nom de mon père en hébreu et le nom de son grand-père en français. Donc, le nom qu'on donne, c'est souvent par rapport à soit le père ou le grand-père qui est décédé ou quelqu'un de la famille qui a marqué. Un peu comme ça, c'est drôle, parce que oui, on vient de loin. Tu sais, mes parents, ils sont du Maroc et toi d'ici. Mais c'est des... En fait, je remarque que les traditions... elles se ressentent dans le sens où on essaye de perdurer la famille, de l'importance de savoir d'où tu viens, où tu t'en vas, surtout. Je trouve que ça se rejoint beaucoup. Pour s'en être parlé pas mal depuis qu'on se croise, je remarque qu'il y a beaucoup de similitudes à ce niveau-là au niveau des noms.
Je ne sais pas, c'est le côté très proche de la famille. Je sens ça en toi aussi.
Oui, c'est essentiel. Hein, c'est, je veux dire... pour moi, ça a toujours été important, surtout qu'on vient... tu sais, mes parents, ils ont émigré. Moi, je suis né ici. Alors, il y a veut pas un déracinement. Alors, c'est important de garder ces traditions-là, de demander d'où on vient pour un peu comprendre ce qu'on est. Tu sais, moi, aujourd'hui, on me dit « Ah, t'es juif marocain ». Oui, mais en même temps, je suis né ici. Mes parents, ça fait 45 ans qu'ils sont là. Tu sais, alors, de savoir... Pourquoi on me dit que je suis marocain? Ben, en cherchant, tu vois que la famille de mon père, par exemple, ils étaient à Fès, au Maroc, répertoriés depuis 400 ans, là, tu sais, on record. Ça veut dire peut-être même avant ça. Donc, oui, je suis marocain, beaucoup par mon éducation, par mon bagage génétique, etc. Mais en même temps, vu que mes parents ont fait le choix de venir ici dans les années 70, je suis très québécois, même. Tu sais, dans la façon que je pense, que je m'exprime, que mes activités, moi je joue au hockey et je skie, là, tu sais, je joue un peu de soccer, mais c'est pas mon sport principal, tu vois.
Qu'est-ce qui a été transmis à toi, de tes traditions de plusieurs générations, évidemment, de ta famille?
Ben, écoute, il y a beaucoup qui sont autour du judaïsme, ok, qui est spécial un peu le judaïsme parce qu'on le dit comme une religion, mais il y a aussi une notion de peuple. On vient tous de la même gang à la base, tu vois. Et il y a une page par exemple sur Instagram qui te montre que les juifs peuvent avoir toutes les couleurs. Tu sais, il y a des juifs arabes, il y a des juifs d'Europe de l'Est qui sont roux avec des yeux bleus, il y a des juifs d'Asie, il y a des juifs africains qui sont noirs. Il y a des, tu sais, on est partout dans le monde et on a cette notion d'une part qu'on partage, si tu veux, la même religion, le même Dieu, etc. Mais aussi, il y a cette notion de peuple. Et c'est là que c'est tout le clash, tu vois, parce que si on parle que de culture, j'ai bien plus proche de culture avec un Marocain musulman qu'avec un juif de Pologne. Mais le juif de Pologne est juif, et moi aussi. Donc on se rejoint là, tu vois. Alors, moi, les traditions qui ont été transmises, si tu veux, de génération en génération, par exemple, quand j'ai fait circoncire mon fils à l'âge de 8 jours, pas, tu sais, c'est pas plus tard. Nous, c'est vraiment à 8 jours, fait par un rabbin qui est certifié là-dedans, etc. Mon père l'a fait à moi. Et ça se trouve que ça s'est fait dans la même bâtisse. Tu sais, c'était à la même synagogue que j'ai fait mon fils, parce que c'est là que c'est notre communauté, tu vois. Mais mon père au Maroc l'a fait, son père l'a fait, et on remonte chez Abraham. Donc, ça, c'est des traditions que on n'attend pas pour te le dire, là. Jour 8, tu es dans la gang, bang, tu es là. Alors, toutes ces affaires-là, moi, quand j'ai fait mon. C'est pas moi qui l'ai fait, mais le jour où ça a été fait pour mon fils. Et tu vois que c'est dans la même synagogue. Et là, finalement, mon père devient celui qui le prend dans ses bras pour faire ça. Donc, il y a cette transmission-là qui est, on te le rappelle tout le temps, si tu veux. À 13 ans, c'est la communion, tu deviens un homme. Moi, j'ai déjà en tête, putain, pour mon fils aussi, il y aura ça. Donc, ces traditions-là sont transmises, bien évidemment. Mais après, il y a des traditions de famille. Alors, par exemple, je sais pas, mon père est fan de fruits, c'est quoi à dire là, mais c'est des clémentines du Maroc. Bon, lui disait qu'au Maroc, il y en avait là, tu sais, ils en mangeaient tout le temps. Donc, nous, on a gardé ça. Faire un verre de thé à la menthe, c'est comme la base. On finit le repas, il y a un verre de thé qui se donne. Alors, quand je rencontre un Marocain musulman, chrétien, peu importe, tu bois un verre de thé, ben ouais, c'est la base. C'est comme demander à un Italien s'il boit un espresso, tu vois, c'est d'office. Donc, il y a beaucoup dans la bouffe des traditions qui ont été transmises, la nourriture beaucoup, beaucoup aussi dans la pratique, la façon qu'on fait les choses. Il y a des amis à mes parents qui me voient aujourd'hui, qui me disent, waouh, man, t'es vraiment un Ben Simon, toi, ça se voit. Tu sais, les mêmes façons de rire, les mêmes façons de faire tout ce qu'on fait. Et donc, je pense que mon père a été très fort là-dessus. Autant il était libéral, on va dire, fais ce que tu veux, mais ça a toujours été. Mais n'oublie pas, c'est ça que tu es, hein. C'est, alors, et il me l'a rappelé tout au cours de ma vie. Et au dé plus jeune, ado, c'est chiant, genre, ah, tu m'emmerdes. Mais en vieillissant, tu réalises que, tu sais, moi, mon fils, quand il est né, à la première seconde, j'ai eu l'impulsion de oh, je vais lui donner tout ça moi aussi. Pourquoi, j'ai aucune idée, mais ça peut-être c'est tellement martelé dans notre tête que quand tu arrives devant le fait accompli, tu dis ah ouais, je vais lui donner ça aussi. C'est parce
Est-ce que ton père, en tout cas, tu parles de ton père, ce que tu veux donner à ton fils, est-ce que tu avais cette chance-là de tradition quand tu étais peut-être plus jeune?
Alors, écoute, je vais te dire, moi, tout mon primaire, je l'ai fait dans une école juive séfarade, c'est-à-dire que des comme moi, des Marocains, francophones, tout ça. Donc, on n'était pas trop challengés à ce niveau-là, parce que tous tes amis, c'est des, tu sais, la plupart pris à la même synagogue que toi, tu les retrouves dans les mêmes fêtes, dans les mariages, c'est les mêmes gangs, etc. Donc, on se voyait. Après, au secondaire, j'ai été dans une école vraiment multiethnique, un collège français à Montréal qui s'appelle Stanislas. Il y avait, je sais pas, 85 nationalités, là, tu sais. Même l'accent québécois, c'était un accent exotique, là, pour te dire. C'était comme, ça venait de partout dans le monde, des Africains, des Arabes, des Latinos, tu sais, c'est vraiment international. Et donc, ça a été pour moi la première fois que j'ai dû me défendre de ce que j'étais. Je n'étais pas attaqué, mais juste on me demandait, ah, toi, tu fais ça comme ça, pourquoi? Et à force de l'expliquer, si tu veux, ça m'a renforcé dans ce que j'étais. Parce que je me disais, ah, c'est cool, man, j'ai un edge. J'ai quelque chose de différent par rapport au reste. Et je suis pas dans la moyenne, là. Tu sais, je suis pas comme tout le monde, moi. Et j'ai trouvé ça cool. Très jeune, j'aimais ça, être le gars différent. Mais être dans la gang quand même. Tu vois, moi, c'était ça. Et sans le savoir, c'était pour moi le début de ce que je définis comme l'intégration. Je m'intégrais au groupe, mais en restant vraiment fort dans ce que j'étais. Tu sais, c'est pour ça que j'ai jamais pris l'accent québécois. C'est pour ça que j'ai toujours gardé mes traditions de bouffe, de religion, etc. Parce que j'ai jamais eu besoin de m'assimiler, entre guillemets. tout le monde était cool avec son affaire, là. Tu sais, le Sénégalais qui arrivait, ça faisait 2 semaines du Sénégal et que le père était, je sais pas moi, corps diplomatique, whatever. Ben, il arrivait avec tout son bagage, là. Alors, chacun essayait d'avoir son bagage à lui qui était cool.
C'était une super école, finalement.
Ben, pour moi, ça a été génial parce que ça m'a permis, premièrement, de découvrir plein de choses et de connaître les gens au-delà du cliché. Et toi, Elisabeth, est-ce que tu es plus traditionnelle comme adulte ou quand tu étais jeune, mettons?
C'est drôle hein, parce que quand j'étais petite, j'ai l'impression que je fuyais tout ce qui est trop traditionnel. J'avais
Une rebelle.
Rebelle, je m'emmerdais surtout avec mes parents adoptifs qui étaient plus âgés, qui, j'ai l'impression, étaient nés dans un autre temps. Tu sais, c'est comme ouais. Ils n'ont jamais arrivé à la modernité. Alors, c'était une souffrance par moment avec eux parce que c'était une lenteur, c'était pas beaucoup de paroles, pas beaucoup de questions, pas beaucoup de discussions par rapport à la vie. Mais maintenant, quand je réfléchis, j'ai eu cette chance-là, de, un peu comme une moine, là, je peux vivre dans cette lenteur, je peux vivre sans trop parler, sans, tu sais, j'ai récupéré ce qu'ils étaient comme personne, cette énergie et cette façon de voir les choses, et c'est le plus beau cadeau qu'on m'a donné parce que dans ma vie de chanteuse, dans ma vie de fille qui vit dans la modernité totale au sud, comme on dit, à Montréal, avec la vie que je devais mener, mener quand même, qui est par moments très publique, tu sais, j'ai l'impression que c'est la plus belle chose qu'on m'a donné. Alors, je suis devenue peut-être pas si traditionnel finalement parce que je vis plus dans mon village, mais j'ai récupéré ce qui est une façon de voir les choses, une façon de gérer le stress, une façon de gérer plein de choses qui vient de chez mes parents, qui vient d'un ancien temps, de prendre, de vivre, d'être capable de vivre au moment présent. Tu sais, c'est pas tout le temps.
C'est rare aujourd'hui.
C'est rare aujourd'hui et j'essaie de souvent revenir à ça. Alors, ouais, je trouve que c'est tellement important. Je pense que quand on est jeune, on veut rebeller et c'est important de le faire aussi.
Moi, justement, j'allais dire la même chose de mon côté. Tu sais, très jeune, c'était vraiment collé à la tradition parce que l'école où j'allais, etc., mes amis et tout. Ado, bien sûr, rebelle, je ne crois plus à rien, vous n'allez pas me dire quoi faire. Et au final, tu réalises, moi, c'est ça, en devenant plus vieux, adulte, j'ai réalisé que non seulement j'y crois et je le fais, mais c'est ce qui me définit au final. Et je vois qu'avec mon enfant, j'ai vraiment envie d'être ce gars-là qu'on m'a demandé d'être quand j'étais jeune. Alors, moi, je pense que les parents le savent parce qu'aujourd'hui, moi, je le sais. Je sais que mon enfant, il va faire cette courbe de « ok, 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 no way ». Ah ben finalement, ouais. Alors, mais c'est important, je pense, dans la bonté, de leur donner ces outils-là et qu'ils feront leur choix après. Tu vois, mes parents, ils étaient très ouverts d'esprit à ce niveau-là. Mon père, il m'a toujours dit « regarde, tu fais ce que tu veux, mais si on te demande, c'est ce que tu es. C'est toi. » Alors maintenant, si ça te convient, voilà, ça te convient pas, c'est correct aussi. Et tu réalises que tu reviens aussi vite à ça que tu as essayé d'en sortir, quoi.
Ouais, c'est je pense que c'est ça la beauté. Il faut jamais oublier que c'est pas parce qu'on est proche de nos traditions et nos cultures qu'on n'était pas rebelles, nous aussi. C'est tellement une belle liberté. Et c'est important d'être rebelle. En tout cas, moi, je crois beaucoup à des rebelles, hein.
Ben oui, Bob Marley, c'était le biggest rebel.
Yeah.
J'ai avec moi Diane M. Pacom, une experte des traditions familiales, notamment chez les jeunes adultes. Pardon. Alors, elle est docteure en sociologie, professeure émérite à la Faculté des sciences sociales à l'Université d'Ottawa et membre de l'Observatoire Jeunes et Sociétés. Bonjour à vous, Madame Pacom.
Bonjour, monsieur.
Bonjour. Alors voilà, on va commencer directement dans le sujet des traditions familiales. Ce qu'on veut savoir, quel impact peuvent avoir des traditions familiales pour un jeune adulte?
Écoutez, les traditions tout court ont une importance capitale dans la vie sociale. C'est qu'elles ponctuent notre existence, c'est-à-dire qu'on bâtit avec les membres de notre famille ou avec les amis. Les traditions ne sont pas juste familiales, n'est-ce pas? Ou avec notre entourage. Des moments qui sortent de l'ordinaire, n'est-ce pas? À l'intérieur desquels où on se rencontre, par exemple, il y a des gens qui se rencontrent une fois par semaine, d'autres juste pour les fêtes, ou par ailleurs on se parle, que ce soit évidemment maintenant avec les technologies modernes, mais c'est vraiment des façons de renouer la sociabilité, voyez-vous, et ces moments sont des moments qui sont très importants dans la vie, aussi bien des adultes que des jeunes. Mais chez les jeunes, ils acquièrent évidemment une importance encore plus grande parce que le jeune ou la jeune deviennent citoyens, c'est-à-dire qu'ils vont faire partie d'une société. Puis, lors de l'acquisition de ces traditions, ou en fait de ces rituels, elles trouvent leur place dans la société.
Est-ce qu'il y a une différence entre l'importance des traditions chez les jeunes avant par rapport à aujourd'hui, ou ça a changé de forme, mais c'est toujours la même impulsion, on va dire?
Mais regardez, les traditions sont absolument essentielles dans la vie des gens. La grande différence, c'est que dans le passé, quand les sociétés étaient beaucoup plus proches de la religion, les traditions étaient dictées par la religion. N'est-ce pas? Oui. Tandis que là, on vit dans une société qui est dépendante. Là, je parle surtout des sociétés nord-américaines. J'embrasse pas du regard l'ensemble de la planète, là. Mais oui. Dans les sociétés nord-américaines, les gens vivent éloignés les uns des autres, mais ils continuent, si vous voulez, à communiquer avec les autres, avec les moyens que la société met à leur disposition. Vous voyez, comme moi, mes parents, ils communiquaient au téléphone, n'est-ce pas? Le téléphone, bon, c'était la façon de communiquer. Après ça, on a changé, puis on a rechangé. Mais le besoin de communiquer et de créer des rituels, n'est-ce pas? Parce que c'est ça, au fait, les deux choses vont ensemble, n'est-ce pas? C'est qu'on se dit, ah, écoutez, à Noël, c'est incontournable, ou à Noël, ou à d'autres fêtes religieuses, je veux dire, il y en a tellement, c'est incontournable, il faut être avec la famille, les week-ends, il faut faire ça. Donc, c'est des choses qui sont pas superficielles à mes yeux de sociologue, je vous parle en tant que sociologue.
Oui, oui.
C'est que la société est faite de réseaux, de communication, mais non seulement des réseaux froids et distants, mais des réseaux affectifs, quoi, n'est-ce pas?
Oui.
Moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait dans cette situation avec la pandémie si je n'avais pas des amis un peu partout avec lesquels on ne se voit pas, je ne les ai pas vus depuis 2 ans, avec lesquels on communique grâce à tous les miracles de la technologie. Mais avant ça, c'était les gens s'écrivaient des lettres ou, vous voyez, où leur vision des réseaux sociaux était beaucoup plus restreinte, ils étaient proches de leurs voisins. Donc, vous voyez, mais c'est un fait qui est universel et qui transcende, si vous voulez, l'histoire, quoi. Donc, ça a toujours été ça.
Peu importe la forme, c'est un réflexe humain d'avoir des traditions, on va dire, récurrentes. La question que j'essaie de poser, c'est plutôt, est-ce que vous voyez quelque chose de plus fort dans une tradition qui perdure depuis longtemps ? Dans le temps, on va dire, que les gens dans cette ville font de la même manière Noël depuis 1500 ans, on va dire. Ou alors, c'est juste le fait d'avoir des traditions, peu importe la forme qu'elles prennent, c'est là que ça dénote un humain social.
Mais vous savez, il y a des traditions collectives, puis il y a des traditions individuelles. Alors, les traditions collectives restent quand même importantes, n'est-ce pas? Parce que c'est la société au complet qui, à l'unisson, vit un moment fort, un moment qui sort de l'ordinaire, voyez-vous. Parce que c'est ça, les traditions, c'est des moments qui sont marquants. C'est pas, on n'a pas des petites traditions. Oui, il y a des gens qui disent, écoutez, je rencontrais ma copine chez Tim Horton une fois par semaine. Il y a ça, c'est aussi des traditions. Et c'est bien, là, je veux dire, il ne faut pas négliger ça. Mais je parle vraiment des traditions plus globales, qui disent, bon, à telle date, telle communauté fait ceci, telle appartenance religieuse fait cela, même à tous les niveaux. Et puis, c'est vraiment, c'est un élément fondateur des sociétés. Et c'est drôle parce que si vous regardez, par exemple, avec l'immigration, Le Canada est un pays d'immigration. Les gens viennent de partout avec leurs propres traditions. Moi, j'ai des amis philippinos. Eux, ils ont des traditions qu'ils ont amenées avec eux, en fait, pas eux-mêmes, leurs parents, leurs grands-parents, auxquels ils tiennent. Mais à côté de ça, ils vont fêter aussi le jour de l'an, quoi. Vous voyez?
Oui, exact.
La fête du Canada. Ou bon. Alors, c'est très intéressant, surtout dans des moments où les gens se déracinent, puis ils vont vivre ailleurs, de voir comment il y a une espèce de mélange qui se produit.
Oui, de partage. Exact.
Oui, non, mais au-delà de ça, entre leurs traditions locales, ancestrales, et les traditions qu'ils rencontrent ici au Canada. Vous comprenez ce que je veux dire?
Complètement. Ça veut dire on chacun y met du sien et on crée peut-être des nouvelles traditions. Mais les façons de célébrer, on parlait de Noël, la façon de célébrer Noël, ici en Amérique du Nord, c'est très germanique presque et très américanisé avec le temps. Mais ça se trouve, vous avez parlé des Philippinos. Moi, j'ai des amis qui ils commencent à décorer leur sapin en septembre. Parce que Noël, c'est ultra important pour eux. Mais c'est très intéressant de vous entendre.
Écoutez, je trouve ça extraordinaire parce que c'est d'ailleurs votre sujet de réflexion est très bon parce qu'on vit dans des sociétés qui sont très individualistes, n'est-ce pas? Il ne faut pas négliger ça. Mais ça n'empêche pas que cette idée de la tradition, qui est une façon finalement de célébrer ce qu'on est, hein, en particulièrement à l'intérieur d'une collectivité totalement éclatée, plurielle, diversifiée, c'est des moments que je considère, vous voyez, moi je suis sociologue, donc scientifique, etc. Mais par contre, ça ne m'empêche pas de comprendre que ces petites choses, parce qu'en fait c'est des petites choses, n'est-ce pas, c'est pas des gestes très très explosifs, très compliqués, et tout ce qu'elles font, c'est qu'elles permettent de renouer le lien social, n'est-ce pas? Parce que la société, c'est quoi sinon un ensemble de relations, n'est-ce pas, de liens. Sinon, on serait vraiment dans le vide individualiste le plus total. Puis on vit dans des sociétés individualistes, mais contrairement à ce qu'on aurait pensé, que bon, là, les gens vivraient individuellement dans leur petite cabane quelque part, mais au contraire, j'ai jamais ressenti autant de désirs et de besoins de communication, notamment à cause des moyens qu'on a aussi. Je veux dire, c'est la technologie nous a permis de rentrer en contact dans quelques secondes avec des gens qui vivent totalement de l'autre côté de la planète.
Donc, peut-être en terminant et en résumant tout ça, on a beau essayer de chasser le naturel, il revient au galop, on est des animaux sociaux et on continue à être traditionnels, on va dire, c'est ça?
Mais non, je pense pas que quand on suit les traditions, on est traditionnel. C'est quand on est des êtres d'habitude, je dirais plutôt, n'est-ce pas? Voilà. C'est-à-dire que ça nous prend des choses, certaines choses qu'on a fait depuis toujours et qu'on aime refaire sans cesse et répéter. Parce que ça nous rassure, nous confirme dans notre choix, puis ça montre qu'on fait partie de quelque chose de beaucoup plus global, n'est-ce pas?
Exactement, ben, c'est super intéressant. Merci beaucoup pour votre apport à notre podcast. Ça éclaire pas mal de questions. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Je vous souhaite des bons rendez-vous de la francophonie et peut-être qu'on se croisera autre qu'en virtuel à un moment donné.
Très très bien, monsieur, puis mes meilleurs voeux à vous et à vos collègues.
Vous avez envie de vous partager vos traditions ou apprendre plus?
Visitez le site web des rendez-vous de la francophonie au rvf.ca.
Bon rendez-vous!